franceinter.fr.
Marcel !
On ne connaît pas son bonheur, on n'est jamais aussi malheureux qu'on croit.
Le paradis, car les vrais paradis sont les paradis qu'on a perdus.
Un été avec Proust. Une émission de Laura El Maki.
On ne connaît pas son bonheur, on n'est jamais aussi malheureux qu'on croit. Dans Un amour de Swann, Marcel Proust décrit très bien l'esprit torturé de Charles Swann, qui se cherche des bonnes raisons pour rester auprès d'Odette. Il ne sait pas s'il l'aime ou si son amour est assez fort pour qu'il renonce à sa liberté. Un soir, il entend la sonate de Vinteuil, chef-d'œuvre musical qui a le don d'atténuer son inquiétude et qui lui procure une sensation de bien-être, presque de bonheur. Mais tout s'inverse rapidement. Il se rend compte que non, il est malheureux et il n'y peut rien. C'est un exemple parmi d'autres du dolorisme proustien, de cette capacité qu'ont certains personnages à se désoler de leur vie. Et cela n'est pas sans rappeler la pensée très pessimiste d'un certain Arthur Schopenhauer. Son nom est cité plusieurs fois par Marcel Proust et son œuvre majeure, Le Monde, comme volonté et représentation, irrigue les pages d'À la recherche du temps perdu. Nous en parlons ce soir avec Raphaël Antoven qui nous accompagne cette semaine sur le thème de la philosophie chez Proust.
Proust est quelqu'un qui devait avoir terriblement souffert, puisque vous savez qu'il était arrivé. Un scepticisme, un nihilisme terrible, aussi bien en ce qui concerne l'amour qu'en ce qui concerne l'amitié. Car cet homme si aimable, si charmant, qui vous entourait de telles protestations d'amitié, ne croyez pas à l'amitié. Ne croyez pas que l'amitié existe.
Bonsoir Raphaël Antoven.
Bonsoir.
Donc c'était la voix grave et chancelante de François Mauriac qui souligne le profond pessimisme de Proust que l'on va étudier ce soir à la lumière de celui de Schopenhauer. C'est vrai que le désespoir est très présent dans la recherche et Schopenhauer a une place de choix dans ce livre puisqu'il a le privilège d'être cité et lu et admiré par les snobs.
Oui, c'est d'abord le philosophe.
Qu'est-ce qu'il y a d'attirant
C'est le philosophe des mondains, c'est les snobs dont l'intelligence culmine dans un pessimisme complaisant et des audaces de salon. C'est Madame de Cambremer qui cite beaucoup Schopenhauer parce que c'est une sorte de lucidité radicale qui fait que ça fait briller en salon. Alors Madame de Cambremer, comme ça, affecte de lire Schopenhauer, ce qui lui permet d'être hyper snob, encore plus snob. Mais alors, elle a des phrases fabuleuses, elle dit « Relisez ce que Schopenhauer dit de la musique », ce qui fait beaucoup rire la duchesse de Guermantes qui dit « Ah non, faut pas nous la faire, relire est sublime ». Schopenhauer, c'est la caution des gens qui refusent d'être dupes et qui font profession de lucidité face au monde sans voir que de cette manière-là, eux-mêmes s'excluent du lot. Mais je crois que c'est plus en profondeur que Schopenhauer travaille la recherche et sur la question du pessimisme et peut-être même au-delà.
Alors, est-ce qu'on pourrait juste résumer en quelques mots la pensée de Schopenhauer ? D'où vient ce désespoir ?
Résumer en quelques mots, c'est beaucoup dire. Pour la résumer à ce qu'on en sait ordinairement, c'est-à-dire à ce à quoi on l'a souvent réduite, ce qui est important ici, c'est ce fameux balancier qui oscille de droite à gauche, de la souffrance à l'ennui. Pour le dire très simplement, nous souffrons de manquer et nous nous ennuyons de posséder. De sorte que la vie, voilà, on passe notre vie à désirer quelque chose, à manquer, à souffrir de manquer et à être fatigué d'avoir. Et c'est exactement ce qui se passe entre le narrateur et Albertine. Tant qu'elle n'est pas là, il souffre. Et en revanche, quand elle est là, elle est comme une captive qui lui est tout à fait indifférente. Donc de ce point de vue, on peut considérer que le balancier schopenhauerien se retrouve en permanence, soit dans l'amour de Swann pour Odette de Crécy, qu'il n'aime que quand elle lui tourne le dos et qu'il n'aime plus ou qu'il aime moins quand elle est accessible, ou bien l'amour du narrateur pour Albertine. Jusqu'ici, pas de problème. C'est un Schopenhauer de salon, encore une fois. C'est le Schopenhauer réduit à son pessimisme. Et le lien entre Proust et Schopenhauer va plus loin. Vous avez cité, Laura, tout à l'heure, la petite sonate de Vinteuil, en disant qu'elle était consolatrice. Je ne crois pas que ce soit le cas. Permettez-moi
de... De manière très éphémère, elle est consolatrice. Il croit que cela le console, mais très vite, il se rend compte que non.
Et elle sait exactement. Et bien, c'est là que ça se joue. C'est là que Proust ne s'arrête pas à Schopenhauer. Pour Schopenhauer, l'art et consolateur. L'art produit une forme d'extinction du désir qui apaise l'existence. C'est par la suppression du désir. Alors que, en vérité, ce que Swann éprouve en écoutant la petite phrase de Vinteuil, c'est une exaltation, une affirmation du désir et de la douleur qui l'accompagne.
Alors, on va parler de ce rapport à l'art de Schopenhauer tout à l'heure, mais pour l'instant, je voudrais qu'on revienne au texte de la recherche et au dolorisme, à la souffrance très présente chez Proust, notamment lorsqu'il s'agit d'amour. Écoutons tout de suite un extrait de La Prisonnière, lu par André Dusselier, où le narrateur détaille le mécanisme de la jalousie.
La souffrance dans l'amour cesse par instant. Mais pour reprendre d'une façon différente, nous pleurons de voir celle que nous aimons ne plus avoir avec nous ces élans de sympathie, ces avances amoureuses du début. Nous souffrons plus encore que, les ayant perdues pour nous, elle les retrouve pour d'autres. Puis, de cette souffrance-là, nous sommes distraits par un mal nouveau, plus atroce. Le soupçon qu'elle nous a menti sur sa soirée de la veille, où elle nous a trompés sans doute. Ce soupçon-là aussi se dissipe. La gentillesse que nous montre notre ami nous apaise. Mais alors, un mot oublié nous revient à l'esprit. On nous a dit qu'elle était ardente au plaisir. Or, nous ne l'avons connue que calme. Nous essayons de nous représenter ce que furent ces frénésies avec d'autres. Nous sentons le peu que nous sommes pour elle. Nous remarquons un air d'ennui, de nostalgie, de tristesse pendant que nous parlons. Nous remarquons comme un ciel noir les robes négligées qu'elle met quand elle est avec nous, gardant pour les autres celles avec lesquelles, au commencement, elle cherchait à nous éblouir. Si, au contraire, elle est tendre, quelle joie, un instant. Mais en voyant cette petite langue tirée comme pour un appel des yeux, nous pensons à celle à qui il était si souvent adressé que, même peut-être auprès de moi, sans qu'Albertine pensât à elle, il était demeuré à cause d'une trop longue habitude un signe machinal. Puis le sentiment que nous l'ennuyons revient. Mais brusquement, cette souffrance tombe à peu de choses en pensant à l'inconnu malfaisant de sa vie, aux lieux impossibles à connaître où elle a été, et peut-être encore dans les heures où nous ne sommes pas près d'elle, si même elle ne projette pas d'y vivre définitivement, ces lieux où elle est loin de nous, pas à nous, plus heureuse qu'avec nous. Tels sont les feux tournants de la jalousie.
Aimer, c'est souffrir. Nicolas Grimaldi nous en parlait il y a peu. La souffrance et l'ennui dominent chez Proust.
L'amour est douloureux.
La naissance et le sentiment amoureux. Alors comment, selon Schopenhauer, peut-on remédier à cette souffrance?
Alors, pour Schopenhauer, il n'y a pas d'issue. En apparence, il n'y a pas d'issue. C'est-à-dire que Schopenhauer est un penseur négatif. Être heureux pour lui, c'est ne plus souffrir. Vous avez mal à la tête, votre migraine se dissipe, vous êtes heureuse. Le bonheur est la négation d'une souffrance. Et on peut tout à fait concevoir ça. Donc, il faudrait nier le désir lui-même, au fond, pour ne plus souffrir, pour Schopenhauer. De là, l'issue qu'il se propose vers dans l'art. Le fait que l'art soit une sorte d'extincteur du désir. Mais il y a, dans la recherche, à mon avis, quelque chose de plus profond que ça et de plus schopenhauerien encore que ça. Parce que le Schopenhauer pessimiste, c'est le Schopenhauer qui s'en tient à l'individu. De mon point de vue, de petit individu, né par hasard dans un monde qui s'en fout, de mon point de vue de petit individu, ma vie est une catastrophe. C'est une tragédie, être condamné à vivre, c'est être condamné à mourir. C'est une catastrophe. Mais si j'accède au sentiment océanique de ma petitesse au sein du monde, de la possibilité d'être, du fait que je suis soluble dans la vie, que je peux disparaître dans la vie, comme le grain qui, en mourant, donne le jour ou féconde le chêne qui va pousser, cette découverte-là, Schopenhauer la thématise aussi. Et c'est exactement ce que Proust dit de la loi de l'art. Il y a un moment où il faut comprendre que la vie, si on était bouddhiste, on dirait la vie ne s'arrête pas à ma vie. Et si on est écrivain, comme l'est le narrateur, comme l'est Proust, il faut comprendre que l'individu n'est que l'occasion d'une œuvre qui va bien au-delà de lui. Et en cela, le pessimisme peut être surmonté. Le pessimisme est surmonté quand on change de registre. Il n'y a pas de solution à l'échelle de l'individu, mais en revanche, quand on s'élève jusqu'à l'échelle de l'existence elle-même, dont l'individu n'est qu'un interprète provisoire et qu'il a pour tâche d'exalter dans le petit temps de sa vie, quand on s'élève à l'échelle de l'existence même, alors, il y a une solution, et cette solution, ça s'appelle l'œuvre d'art.
Alors, j'aimerais que vous nous lisiez justement ce fameux extrait de Schopenhauer, où il se montre incroyablement positif.
Il surmonte, il donne le sentiment en tout cas que le pessimisme peut être surmonté dans la conscience de sa solubilité.
On vous écoute.
L'individu meurt. L'espèce est indestructible. L'individu est l'expression dans le temps de l'espèce qui est hors du temps. La mort est pour l'espèce ce que le sommeil est pour l'individu. L'espèce représente un des aspects de la volonté comme chose en soi. À ce titre, elle représente ce qu'il y a d'indestructible dans l'individu vivant. Elle contient tout ce qui est, tout ce qui fut, tout ce qui sera. Quand nous jetons un regard vers l'avenir et que nous pensons aux générations futures, avec leurs millions d'individus humains différents de nous par leurs mœurs et leurs costumes, et que nous essayons de nous les rendre présents, cette question se pose. D'où viendront-ils tous? Où sont-ils maintenant? Où donc est ce riche sein du néant gros du monde qui cache les générations à venir? Et où pourrait-il être, sinon là où toute réalité a été et sera, dans le présent et dans ce qu'il contient? En toi-même, questionneur insensé qui, en méconnaissant ta propre essence, ressemble à la feuille sur l'arbre qui, se flétrissant en automne et pense qu'elle va tomber, se lamente sur sa mort et ne veut pas se consoler à la vue de la fraîche verdure dont au printemps l'arbre sera revêtu.
Dans ce texte, on ne sent pas la crainte de la mort pour Schopenhauer.
Et comme dit Proust, il faut mourir. Il faut mourir, c'est Proust, hein, comme la graine. Je pourrais mourir quand la plante se serait développée. C'est ça l'histoire. Il faut mourir. Il faut accepter de mourir. Mourir à soi-même. Mourir au sentiment que notre propre mort est une catastrophe. Pour s'ouvrir au sentiment d'une vie qui a besoin de notre mort comme notre organisme a besoin, et je le dis sous le contrôle de Jean-Claude Amezen, du suicide cellulaire. De l'apoptose. Un individu qui meurt, c'est l'apoptose nécessaire à l'avènement de l'œuvre d'art.
L'apoptose, est-ce que vous pouvez juste me l'expliquer?
Le suicide cellulaire. Tout simplement, c'est le suicide cellulaire. Une cellule qui ne se suicide pas est une cellule cancéreuse. Une cellule qui ne se suicide pas est une cellule mortelle. Pour vivre, nous avons besoin que nos cellules se suicident en permanence. Vraiment, nous parlons ici sous le contrôle de Jean-Claude Amezen, qui connaît ça mieux que nous et qui l'explique aux auditeurs de France Inter. Mais il faut mourir. Et c'est en cela qu'il parle de la loi cruelle de l'art. Hugo, Proust cite Hugo, il faut que l'herbe pousse et que les enfants meurent. Moi, je dis que la loi cruelle de l'art est que les êtres meurent et que nous-mêmes mourions en épuisant toutes les souffrances pour que pousse l'herbe non de l'oubli, mais de la vie éternelle. Et c'est en cela que ce livre, qui est tellement schopenhauerien, finit bien.
Mais alors, moi, je trouve que cette phrase, elle est incroyablement triste. Moi, je dis que la loi cruelle de l'art est que les êtres meurent.
Oui.
Il ne se remet pas de cette idée-là.
Mais au contraire. Les êtres humains, c'est tout le travail de la recherche, c'est de faire ce travail de deuil, c'est de surmonter la mort des gens qu'il aime. Comment surmonte-t-il la mort? En les ressuscitant dans un livre qui n'en est pas le tombeau, mais qui en est le résurrecteur, si j'ose dire, je ne sais même pas si ce mot existe, mais le résurrecteur constant, permanent, la grand-mère du narrateur, Saint-Loup au visage tout dévisagé par un obus, comme dit Françoise, Albertine, morte d'une chute à cheval, ces êtres-là ont accédé à une forme d'éternité, il a fait passer la douane de l'éternité à ces êtres-là en faisant ce travail de deuil. En quoi consiste précisément le travail littéraire? Il faut que nous mourions, il faut que les êtres meurent et que moi-même je meure pour avoir la conscience de la vocation qui est la mienne. C'est en sachant que je suis mortel, que je dois produire une œuvre d'art ou que je me donne les moyens de produire une œuvre d'art. C'est en cela qu'on peut comprendre la fin du temps retrouvé. À la fin du temps retrouvé, au moment où il a l'intuition de son talent et de sa vocation, au sens presque théologique du terme, de sa mission, au moment où il a cette intuition-là, il cesse d'avoir peur de la mort. Il a juste pas envie de mourir. Il veut pas mourir avant d'avoir fait ce qu'il a à faire.
Oui, il a peur de trébucher dans l'escalier.
Il a peur de trébucher, il a peur d'un accident de voiture. Et c'est en cela qu'il est camusien, peut-être on aura l'occasion d'en parler. Il a peur d'un accident de voiture. Il dit, c'est fou, un accident de voiture ou un accident vasculaire pourrait me priver d'extraire le minerai dont je suis à la fois le dépositaire et le trépan. C'est-à-dire que je suis à la fois l'outil pour extraire le minerai et en même temps, je suis la mine d'or moi-même. Si je meurs, la mort idiote, la mort imbécile, me privera de cette tâche dont il a eu l'intuition en découvrant qu'il était mortel. Donc, il n'a plus peur de la mort. Il comprend que le fait d'être mortel est sa plus grande chance et que la possibilité de mourir est son plus grand risque dans la mesure où il court le risque, et nous courons le risque, de mourir avant d'avoir donné le jour à ce qui permet à la partie d'éternité que nous avons en nous, à l'expérience que nous pouvons faire de l'éternité, et bien tout simplement de nous survivre. C'est-à-dire, il faut faire une œuvre d'art, voilà.
Merci Raphaël Antoven.
Merci.
On se retrouve demain pour parler de Nietzsche chez Proust. Bonne soirée et à demain.
problem is all inside your head, he said to me. The answer is easy if you take it logically. I'd like to help you in your struggle to be free. There must be 50 ways to leave your lover. He said it's really not my habit to intrude. Furthermore, I hope my meaning won't be lost or misconstrued. But I repeat myself, at the risk of being crude, there must be 50 ways to leave your lover. 50 ways to leave your lover. Just slip out the back, Jack. Make a new plan, Stan. You don't need to be coy, Roy. Just get yourself free. Hop on the bus, Gus. You don't need to discuss much. Just drop off the key, Lee, and get yourself free. Slip out the back, Jack. Make a new plan, Stan. You don't need to be coy, Roy. Just listen to me. Hop on the bus, Gus. You don't need to discuss much. Just drop off the key, Lee, and get yourself free. He said it grieves me so to see you in such pain. I wish there was something I could do to make you smile again. I said, I appreciate that. And would you please explain about the 50 ways? He said, why don't we both just sleep on it tonight? And I believe in the morning you begin to see the light. Then he kissed me. And I realized he probably was right. There must be 50 ways to leave your lover. 50 ways to leave your lover. Just slip out the back, Jack. Make a new plan, Stan. You don't need to be coy, Roy. Just get yourself free. Hop on the bus, Gus. You don't need to discuss much. Just drop out the key, Lee, and get yourself free. Ooh, slip out the back, Jack. Make a new plan, Stan. You don't need to be coy, Roy. You just listen to me. Hop on the bus, Gus. You don't need to discuss much. Just drop out the key, Lee, and get yourself free.